Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV. C'est vous qui représentez le système. Hello.
Il est presque 9h40 sur France Inter, l'instant M, un poil en avance.
Vous êtes en direct, allez-y.
Dénoncés pour leur soutien aux indépendantistes, Madrid a pris hier le contrôle de la télévision et de la radio catalane. Alors même que beaucoup dans tout le pays pointent le manque d'objectivité de la télévision espagnole. Guerre de tranchées partisanes par télé publique interposée donc. Et au centre du jeu, les correspondants étrangers examinés à la loupe, reportage après reportage, subissant une pression inédite, y compris sur les réseaux sociaux. Reporters sans frontières parlent même de harcèlement, voire de lynchage.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Élise Gazangel.
Bonjour.
Et merci de nous avoir rejoint parce que vous êtes journaliste à Barcelone depuis 9 ans. Alors je précise bien à Barcelone et non à Madrid, hein, où sont concentrés beaucoup des correspondants étrangers. Vous travaillez pour France 2, France 24, aussi pour des journaux espagnols comme Contexto par exemple, le site d'info monté par les anciens d'El País qui eux sont installés à Madrid. Vous travaillez également pour Radio Canada. Vous êtes rentré 2 jours à Paris. Vous aviez besoin de faire un tout petit break avant la réunion au Parlement de jeudi, puisque vous repartez cet après-midi à Barcelone. Et puis non, vous êtes venu nous voir, c'est extrêmement gentil parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Je précise que vous avez eu besoin de suspendre votre compte Twitter plusieurs jours et que vous n'êtes pas la seule parmi vos confrères sur place. Un petit journal des médias avant de franchir les Pyrénées.
Attends, juste une chose, vous vous rendez compte que juste avant, on a fait passer un mec qui est déguisé
en extraterrestre. C'est ce que j'allais dire,
Non mais, c'est pas possible.
À lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, ce matin, M6 et la société de production Fremantle ont décidé de sauver ce qui pouvait être encore sauvé de la 12e saison de La France est un incroyable talent. Vous venez d'en entendre un extrait. Parmi les membres du jury, le Québécois Gilbert Rozon, aujourd'hui poursuivi pour agression sexuelle. Alors le programme devait d'abord être enterré, sauf que les demi-finales et la finale du télécrochet n'avaient pas été encore tournées lorsque le scandale a éclaté. Ce sera donc fait et ce sera diffusé sans Rozon, évidemment, mais avec les autres jurés que sont Hélène Ségara, Kamel Wally et le magicien Éric Antoine. Alors c'est la pépite du jour, c'est le coup de cœur de l'équipe de l'Instant M, à voir absolument. D'ailleurs je vous glisse un lien sur la page du site internet de l'Instant M, hein, sur franceinter.fr. La nouvelle campagne de pub de la chaîne info américaine CNN. À l'image, vous voyez une pomme sur fond blanc. « Ceci est une pomme », est-il écrit et est-il dit. Certains vous diront qu'il s'agit d'une banane. Ils pourront vous le hurler. Ils pourront même vous l'écrire en majuscule.
This is an apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream banana, banana, banana over and over and over again. They might put banana in all caps. You might even start to believe that this is a banana. But it's not. This is an apple.
Voilà, vous seriez même tenté de croire que ceci est une banane, mais non, ceci est une pomme. C'est signé Fact First, les faits en premier, et c'est évidemment une réponse à l'America First de Donald Trump, qui lui, évidemment, ne s'encombre pas des faits. Romain Nigita, salut Romain.
Bonjour Sonia.
Notre chroniqueur série qui est rentré de Cannes, vous nous avez manqué. Vous étiez parti faire un tour au MIP.com, c'est le marché international des programmes. C'est le rendez-vous mondial de toute la production télé. Et vous y avez décelé le grand retour des séries historiques avec des machins, on va dire, parfois très très surprenants, Romain.
En effet, des grosses surprises, puisque à l'époque de Game of Thrones, on ne peut plus vendre une série historique sur la simple promesse d'enseigner l'histoire. Alors accrochez-vous, j'ai vu au MIP Britannia. Mm-hmm. Nous sommes en 43 après Jésus-Christ, l'Europe est occupée par les Romains, à l'exception d'une île peuplée d'irréductibles bretons. C'est donc une sorte d'Astérix en Grande-Bretagne avec des druides qui luttent contre des légionnaires. Le tout filmé de manière totalement hystérique et ultra-violente. On se rapproche de la série télé Spartacus. Goscinny et Uderzo n'y reconnaîtraient pas leurs amphores.
D'accord, vous pensez que ça va être diffusé en France ce machin?
On verra ça sur la plateforme Amazon.
Ah bah voilà, qui maintenant est accessible en France. Alors autre exemple avec Trotsky, là je vous avoue que je me suis étranglée quand j'ai lu votre papier.
Et bien moi aussi c'est en voyant cette production que je me suis étranglée, puisque j'ai pu découvrir Médusée, cette production russe sur la vie de Léon Trotsky. Elle a été produite pour célébrer le centenaire de la révolution bolchevique. Et avant la projection, le réalisateur et le producteur nous ont annoncé que Trotsky était Je cite, attention, le Harvey Weinstein de son époque, une rockstar dont les méthodes anticipaient celles des SS.
N'importe quoi.
Exactement, et le résultat est tout aussi confondant d'absurdité. C'est une super production tournée comme un film de super-héros, avec des effets spéciaux et des ralentis en pagaille. Le tout au service d'un discours plus que douteux, et les courageux pourront voir ça sur Netflix.
Ou pas.
Hein. Ou pas.
C'est ça. Derrière ces productions zinzin, il y a néanmoins un virage assez profond sur le marché. Celui que prennent par exemple les chaînes documentaires qui, elles aussi, veulent leur série de fiction. En fait, tout le monde veut de la série de fiction.
Tout à fait. History Channel, qui ne faisait que du documentaire d'histoire, a lancé la série Vikings. Discovery a diffusé Harley and the Davidsons sur les origines de la célèbre marque de moto. Et c'est désormais National Geographic qui entre dans la danse, avec notamment Genius. Dans la saison 1, Jeffrey Rush incarnait Albert Einstein. Et la saison 2 mettra en scène Antonio Banderas dans le rôle de Picasso.
C'est bizarre ça, Banderas qui joue Picasso. Alors pourquoi est-ce que les chaînes de documentaires passent elles aussi à la série? Parce qu'en réalité, il y a déjà une offre pléthorique.
En effet, le nombre de séries américaines a doublé ces 10 dernières années. J'ai donc posé la question directement à la principale intéressée, Courtney Monroe, la PDG de National Geographic Channel.
Nous avons besoin d'être une marque et d'avoir un contenu que le public perçoit comme exceptionnel et pour lequel il est prêt à s'abonner. Je pense qu'il est impossible de surnager dans ce pic de production sans prendre la qualité et la différence comme référence. Nous avons découvert qu'il y avait une vraie demande du public et des annonceurs pour les programmes de fiction. Nous cherchons des histoires qui sont différentes et de qualité, mais qui ont aussi une puissance mondiale, car National Geographic est diffusé dans 171 pays, 450 millions de foyers. Nous devons trouver des histoires qui ne sont pas uniquement américaines, mais qui résonnent dans le monde entier.
Et National Geographic va aussi diffuser The Long Road Home sur des soldats américains en Irak, ainsi que The State, la mini-série de Peter Kominski sur Daesh. Et le prochain projet de la chaîne, c'est une nouvelle version de L'étoffe des héros, l'histoire des pionniers de la conquête spatiale. Ça sera produit par Leonardo DiCaprio et sa société de production.
Voilà, et c'est parti pour peut-être 5 saisons. Un petit mot quand même sur ce qu'on appelle le peak TV aux États-Unis, parce que vous dites que la production de séries a doublé. Romain, on va aller jusqu'où? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que la bulle peut éclater?
La bulle risque probablement d'éclater parce qu'on a Netflix qui investit plusieurs milliards de dollars en production. On a des grands réseaux américains qui maintenant s'internationalisent. HBO a annoncé via son PDG lors du MIP qu'elle allait lancer une plateforme internet mondiale. Donc qui va venir en concurrence avec les chaînes locales, par exemple françaises, OCS, qui diffusent des séries HBO. On a Disney qui retire toutes ses productions de la plateforme Netflix pour préparer sa propre plateforme. Donc on a vraiment un véritable éclatement de ce phénomène.
Oui, c'est ça. Il va falloir combien d'abonnements en réalité pour...
C'est bien ça le problème que vont avoir tous ces diffuseurs, c'est que le consommateur, le téléspectateur, ne peut pas s'abonner à tout. C'est impossible. Et actuellement, ça, c'est la direction qu'on est en train de prendre, notamment avec Amazon aussi qui est rentré dans le jeu.
Voilà, c'est un marché en pleine inflation. C'est assez spectaculaire. Bon, bon retour, Romain, et à la semaine prochaine.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Voilà, je vous conseille vivement de lire le rapport que Reporters sans frontières, l'association de défense de la presse et des médias, a publié sur le sort des journalistes espagnols, catalans ainsi que des correspondants étrangers en ce moment en Espagne. Nous allons d'ailleurs vous glisser un lien sur la page de l'Instant M, franceinter.fr. Élise Gazangel, je l'ai dit, est mon invitée. Elle est correspondante à Barcelone depuis 9 ans. Elle travaille pour France 2, pour France 24. On vous l'a dit, TV3 en français, vient d'être repris en main par le gouvernement espagnol. C'est une étape de plus qui est franchie, un cran supplémentaire dans cette pression qui monte autour des médias et de cette guerre de tranchées idéologiques. Je vous fais écouter Polonia. Polonia, c'est l'émission satirique diffusée sur TV13, la chaîne publique catalane. Énorme succès, des comédiens déguisés, ici Mariano Rajoy dans un rock endiablé.
Alors, capítulo anterior.
Escúchame bien, Puigdemont, si no abandonas tu posición. Voy a sustituirte por mi gran amigo, Enriquillo.
Para meterte un puro es que nos sobran los motivos.
Élise Gazangel, vous sauriez nous dire ce que chante ce faux Mariano Rajoy?
Mariano Rajoy est en train de chanter évidemment le discours officiel du gouvernement de Madrid. Non, si tu reviens pas sur ta position, je vais te remplacer par mon grand ami et... tout ça sur une musique flamenco qui est une musique qui s'entend pas particulièrement en Catalogne, et qui est cataloguée très Espagne, Andalousie.
Évidemment. Alors, Polonia a également dépoussiéré sa perruque et son déguisement de Franco. Grand retour dans cette émission satirique du personnage.
Ouais, c'est pas un personnage qu'on voyait régulièrement sur Polonia, vraiment sur des moments, des dates clés, des dates importantes. Mm-hmm. C'est vrai que là, ces derniers jours, on le voit plus souvent, puisque dans tous les cas, c'est un discours qui est repris par les indépendantistes aussi. Franco est revenu dans les slogans, dans les manifestations indépendantistes, c'est aussi à cette époque, ça se passait déjà avec Franco.
Voilà, et Polonia sert évidemment là de défouloir anti-Rajoy, mais Polonia est aussi capable de pointer, de moquer la politique catalane elle-même.
Ouais, Polonia, c'est pas un discours non plus indépendantiste tous les jours de l'année, c'est-à-dire que c'est une émission satirique comme on pouvait avoir avec les Guignols en France. Qui se moque aussi allègrement des problèmes politiques catalans internes, hein, entre le président catalan et le vice-président qui ont aussi des petites tensions en interne. Voilà, c'est vraiment ces dernières semaines où l'actu est plutôt entre Madrid et Barcelone, donc ils en parlent plus.
Ils en parlent plus. Alors TV3 a été créé en 1983, 2000 salariés. Il faut bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une chaîne locale, mais d'une institution publique vraiment d'une importance majeure. Évidemment, à l'époque, l'idée était de promouvoir la culture et la langue catalane, budget annuel 300 millions d'euros. C'est la chaîne la plus regardée en Catalogne. Nous, on a regardé les chiffres d'audience, c'est 11% d'audience en général. Il faut savoir que c'est plus qu'M6 en France. Et les journaux sont regardés à plus de 25% d'audience, c'est-à-dire que c'est plus que le JT de TF1 et Disgaz Angèle.
Ouais, c'est vraiment pas une chaîne locale comme on pourrait comparer avec les France 3 régions d'ici. C'est une chaîne qui émet dans leur langue, comme vous voulez le dire, c'est dans les années 80, donc c'est après le franquisme. Leur langue, elle leur avait été interdite parler ou même à l'école. Donc c'est la première fois où ils peuvent revoir des infos dans leur langue et on
le
traite
JT
tous les sujets.
Le JT est en catalan.
Ouais, toute la chaîne est en catalan, évidemment, si l'interview est faite à un ministre espagnol, il laisse et il sous-titre pas. Mais tout est en catalan, oui.
Alors, évidemment, reprise en main afin de garantir, je cite, la transmission d'une information véridique, objective et équilibrée. Ça, c'est les propos de Madrid. Et là, le syndicat des journalistes de Catalogne a qualifié d'ironique, hein, c'est leur mot, la mesure du gouvernement, étant donné, je cite toujours le syndicat des journalistes de Catalogne, l'utilisation politique qui est faite de la télévision publique espagnole, la TVE, par le parti au pouvoir, le Parti populaire, le parti de Mariano Rajoy.
Ouais, c'est même plus, c'est le propre comité de rédaction des informations de TVE qui a émis un communiqué hier aussi pour dénoncer un peu cette mesure du 155 pour mettre sous tutelle une télé publique catalane, quand eux-mêmes, les propres journalistes de la télévision espagnole publique, dénoncent régulièrement des pressions de leur chef, de leur direction, dans justement le traitement de cette crise catalane.
Voilà, il faut bien rappeler que la TVE, la télévision publique espagnole, a carrément censuré la période du référendum et n'a pas diffusé d'images du référendum en Catalogne, ce qui paraît totalement aberrant. Alors nous, ça nous paraît totalement aberrant, Élise. En réalité, le public espagnol est très habitué à ça, à des télévisions publiques très partisanes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de redevance en Espagne, il n'y a pas d'impôt dédié. Donc chaque télévision publique est totalement dépendante pour son financement du parti au pouvoir, d'où ce côté partisan et clientéliste.
Oui, bien sûr. Bon, après, c'est vrai que ça choque un peu en étant français d'entendre ça, mais on sait à quoi on s'attend sur certains sujets en regardant l'une ou l'autre chaîne, la télé publique catalane ou espagnole. C'est quelque chose qui est complètement assimilé aussi par les auditeurs ou par les téléspectateurs de chaque radio et public et télé publique espagnole ou catalane.
Voilà, c'est une tradition. Il en a toujours été ainsi.
Puisque la direction est nommée directement par le Parlement, par la majorité du Parlement. Donc en ayant une majorité indépendantiste en Catalogne, on s'imagine qu'ils ne vont pas nommer un directeur de l'information anti-indépendance.
Alors TV3, donc englobé dans ce fameux article 155 de la Constitution sur la suspension d'autonomie qui n'avait donc jamais été utilisée. Hein. On précise que le Parlement se réunit jeudi et que vendredi, le Sénat va voter ou non, mais manifestement oui, cet article 155. Le tout dans un climat. Voici ce qu'on entend dans les manifestations. Ma Manipulation. Qu'est-ce que c'est, Lydia Angèle?
Alors, c'est tout dépend de la manifestation. Là, ce qu'on entend, c'est TV3 manipuladora. Donc, c'est TV3 télé catalane manipulatrice. Et dans les manifestations indépendantistes, on entendra Prensa Española manipuladora. Presse espagnole manipulatrice. Chacun, comme on le disait avant, ils sont tellement partisans que chaque public dénonce
la
dans les manifestations
de
la
l'autre.
Télé de l'autre. Voilà.
Voilà, ça fait 9 ans que vous êtes à Barcelone, des manifs indépendantes, vous en avez beaucoup couvert. Vous avez assisté à ça?
Non, c'est vrai que ce sont des slogans qu'on entendait, mais très peu dans les mouvements un peu plus radicaux. Là, c'est un, pour pas dire le slogan le plus répété. Enfin, le 20 septembre dernier, il y a eu des arrestations, par exemple, des hauts fonctionnaires avant le référendum. Le lendemain, il y a eu une manifestation pour demander la libération de ces hauts fonctionnaires. Le slogan le plus répété, c'était « Presse espagnole manipulée ».
Voilà, la presse n'ayant rien à voir avec l'arrestation de ces hauts fonctionnaires. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que puisque chaque journaliste espagnol est considéré par le public et par les autorités comme soit acquis à la cause, soit perdu à la cause, c'est-à-dire que tout le monde est étiqueté en Espagne, tout le monde, eh bien, la pression se porte et les regards se tournent vers les correspondants étrangers. Et ça, c'est très inédit, finalement, comme situation.
Ouais, alors, du côté catalan, c'est vrai que c'est quelque chose où on était plus regardé que les autres, que les correspondants de Madrid, parce que l'indépendantisme et le mouvement catalaniste avaient besoin de nous, entre guillemets, pour montrer qu'on parle de la Catalogne. Mais dernièrement, là, les deux camps se sont intéressés, puisque de toute façon, ils savent que l'un ou l'autre va parler en bien ou en mal d'eux. Donc, ils ont besoin un peu de ce soutien international. Hier, par exemple, il y a eu l'édito du Monde consacré à la crise catalane. Ce matin, dans les journaux, on lisait par exemple la Vanguardia qui faisait un papier disant « Le Monde réclame le dialogue », alors que les médias plus espagnols, on va dire, prenez cet édito du Monde pour montrer, voilà, même le Monde nous dit qu'on a besoin de la légalité et
c'est
que c'est
ça.
Normal
et en
ce qu'on
fait. Il y a énormément d'émissions à la télévision et de dossiers dans les journaux pour savoir, par exemple, comment la France voit la crise espagnole, comment elle est traitée. Vous-même, vous êtes régulièrement interpellé pour savoir pour qui vous prenez parti, pour lequel des deux camps vous allez rouler.
Oui, on est régulièrement interviewé, invité en radio, en télé, pour nous demander notre opinion. Que pense la France? Vous, en tant que journaliste, donc nous, on est journaliste, on n'est pas justement donneur d'opinion, mais c'est
voilà. Mais c'est une autre conception, hein, journaliste.
Hier, par exemple, dans le JT catalan, il y a eu un sujet qui a été fait sur les télés sont venus nous voir parce qu'ils sont intéressés par la crise catalane. Et c'était un sujet à l'intérieur de la rédaction de la TV3 avec BFM, avec d'autres télés internationales qui étaient venus faire un sujet sur eux.
Alors, Reporters sans frontières dénonce également les pressions réitérées des responsables de la communication du gouvernement autonome catalan, mais également de Madrid. C'est-à-dire, ça vient des chefs de presse, des chefs de partis politiques directement sur les correspondants étrangers. Autre chose, on parle d'insultes, d'intimidations et de menaces sur Internet contre tous les professionnels des médias, mais vous, les correspondants, vous êtes plusieurs à avoir suspendu vos comptes Twitter.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'était pas forcément, on n'attendait pas forcément ça. C'est vrai que le sujet catalan avait toujours un peu plus motivé, non, sur nos comptes personnels,
les réactions,
les gens de Twitter, etc. Mais c'est vrai que dernièrement, c'est enfin, on peut pas passer un tweet, une info, une phrase sans être interpellé, sans être insulté de menteur, de manipulateur, ou alors on comprend pas le côté catalan, ou à l'inverse, on est complètement vendu à l'indépendantisme, ce que plusieurs médias ont reçu comme menace et comme insulte après la répression policière du 1er octobre, du jour du référendum. Il y a eu des titres et des chroniques sur comment l'indépendantisme a gagné l'opinion dans les médias étrangers.
Voilà, donc tout est repris à outrance, tout est examiné à la loupe et pression maximum. C'est pour ça que vous avez fait un petit break de 2 jours, c'est pour ça que vous êtes rentré.
Ouais, j'avais besoin
c'est
de
ça.
De
c'est
prendre
ça.
Deux jours.
Donc là, vous rentrez cet après-midi, les prochaines actualités donc que vous couvrirez pour les médias français, ce sera donc la réunion du Parlement jeudi. Peut-être une proclamation d'indépendance, on ne sait pas.
Officiellement, ils ne pouvaient pas dire on va proclamer l'indépendance jeudi au Parlement, puisque la session plénière aurait été suspendue par le constitutionnel. Ouais. Officieusement, c'est ce qu'on attend, même si officiellement, c'est débattre sur cette suspension.
Et vendredi, le vote au Sénat de ce fameux article 155 dont dépend l'avenir de TV3. Merci beaucoup, Élise Gazangel, et bon voyage de retour. C'est la fin de l'Instant M.